Chapitre 2. Reprise des derniers mots du 1. Pour comprendre l'intérêt que cache l'introduction de cette scène, il faut en oublier un moment les personnages pour se prêter au récit d'événements antérieurs, mais dont le dernier se rattache à la mort de Madame Crochard. Ces deux parties formeront alors une même histoire qui, par une loi particulière à la vie parisienne, avait produit deux actions distinctes. Vers la fin du mois de mars 1806, un jeune avocat, âgé d'environ 26 ans, descendait vers 3 heures du matin le grand escalier de l'hôtel où demeurait l'archi-chancelier de l'Empire. Arrivé dans la cour en costume de bal par une fine gelée, il ne put s'empêcher de jeter une douloureuse exclamation où perçait néanmoins cette gaieté qui abandonne rarement un Français, car il n'aperçut pas de fiacre à travers les grilles de l'hôtel et n'entendit dans le lointain aucun de ces bruits produits par les sabots ou par la voix enrouée des cochers parisiens. Quelques coups de pied frappés de temps en temps par les chevaux du grand juge que le jeune homme venait de laisser à la bouillotte de Cambacérès retentissaient dans la cour de l'hôtel à peine éclairée par les lanternes de la voiture. Tout à coup, le jeune homme, amicalement frappé sur l'épaule, se retourna, reconnut le grand juge et le salua. Au moment où le laquais dépliait le marchepied du carrosse, l'ancien législateur de la Convention devina l'embarras de l'avocat. « La nuit de tous les chasses aux grilles, lui dit-on gaiement. Le grand juge ne se commettra pas en mettant un avocat dans son chemin. » Surtout, ajouta-t-il, si cet avocat est le neveu d'un ancien collègue, l'une des lumières de ce grand conseil d'État qui a donné le code Napoléon à la France. Le piéton monta dans la voiture sur un geste du chef suprême de la justice impériale. « Où demeurez-vous ? » demanda le ministre à l'avocat avant que la portière ne fût refermée par le valet de pied qui attendait l'ordre. « Quai des Augustins, monseigneur ?» Les chevaux partirent et le jeune homme se vit en tête à tête avec un ministre auquel il avait tenté vainement d'adresser la parole avant et après le somptueux dîner de Cambacérès, car le grand juge l'avait visiblement évité pendant toute la soirée. « Eh bien, monsieur de Granville, vous en êtes en assez beau chemin. Mais tant que je serai à côté de votre Excellence, « Oh, je ne plaisante pas, dit le ministre. Votre stage est terminé depuis 2 ans et vos défenses dans le procès Ximeuse et d'eau de serre vous ont placé bien haut. J'ai cru jusqu'à aujourd'hui que mon dévouement à ces malheureux émigrés me nuisait. « Vous êtes bien jeune, dit le ministre d'un ton grave. Mais, reprit-il après une pause, vous avez beaucoup plu ce soir à l'archi-chancelier. « Entrez dans la magistrature du parquet, nous manquons de sujet. Le neveu d'un homme à qui Cambacérès et moi nous portons le plus vif intérêt ne doit pas rester avocat faute de protection. Votre oncle nous a aidés à traverser les temps bien orageux et ses sortes de services ne s'oublient pas. » Le ministre se tut pendant un moment. « Avant peu, reprit-il, j'aurai 3 places vacantes au tribunal de première instance et à la cour impériale de Paris. Venez alors me voir et choisissez celle qui vous conviendra. Jusque-là, travaillez, mais ne vous présentez point à mes audiences. D'abord, je suis accablé de travail, puis vos concurrents devineraient vos intentions et pourraient vous nuire auprès du patron. Cambacérès et moi, en ne vous disant pas un mot ce soir, nous vous avons garanti les dangers de la faveur. » Au moment où le ministre acheva ses derniers mots, la voiture s'arrêtait sur le quai des Augustins. Le jeune avocat remercia son généreux protecteur avec une effusion de cœur assez vive des 2 places qu'il lui avait accordées et se mit à frapper rudement à la porte car la bise sifflait avec vigueur sur ses mollets. Enfin, un vieux portier tira le cordon, et quand l'avocat passa devant la loge, « Monsieur Granville, il y a une lettre pour vous » cria-t-il d'une voix enrouée. Le jeune homme prit la lettre et tâcha, malgré le froid, d'en lire l'écriture à la lueur d'un pâle réverbère dont la mèche était sur le point d'expirer. « Oh, c'est de bon père !» s'écria-t-il en prenant son bougeoir que le portier finit par allumer. Et il monta rapidement dans son appartement pour y lire la lettre suivante. « Prends le courrier, et si tu peux arriver promptement ici, ta fortune est faite. Mademoiselle Angélique Bontemps a perdu sa sœur. La voilà fille unique et nous savons qu'elle ne te hait pas. Maintenant, Madame Bontemps peut lui laisser à peu près 40 000 francs de rente, outre ce qu'elle lui donnera en dot. J'ai préparé les voies. Nos amis s'étonneront de voir d'anciens nobles s'allier à la famille Bontemps. Le père Bontemps a été un bonnet rouge foncé qui possède des forces bien nationaux achetées à vil prix. Mais d'abord, il n'a eu que des prêts de moines qui ne reviendront jamais. Puis, si tu as déjà dérogé en te faisant avocat, je ne vois pas pourquoi nous reculerions devant une autre concession aux idées actuelles. La petite aura 300 000 francs, je t'en donne 100. Le bien de ta mère doit valoir 50 000 écus ou à peu près. Je te vois donc en possession, mon cher fils, si tu veux te jeter dans la magistrature, de devenir sénateur tout comme un autre. Mon beau-frère, le conseiller d'État, ne te donnera pas un coup de main pour cela, par exemple, mais comme il n'est pas marié, sa succession te reviendra un jour. Si tu n'étais pas sénateur de ton chef, tu aurais donc sa survivance. De là, tu seras juché assez haut pour voir venir les événements. Adieu, je t'embrasse. F. Comte de Granville. Le jeune de Granville se coucha donc en faisant 1 000 projets plus beaux les uns que les autres. Puissamment protégé par l'archichancelier, par le grand juge et par son oncle maternel, l'un des rédacteurs du Code, il allait débuter dans un poste envié devant la première cour de l'Empire et se voyait membre de ce parquet où Napoléon choisissait les hauts fonctionnaires de son empire. Il se présentait de plus une fortune assez brillante pour l'aider à soutenir son rang, auquel n'aurait pas suffi le chétif revenu 5 000 francs que lui donnait une terre recueillie par lui dans la succession de sa mère. Pour compléter ses rêves d'ambition par le bonheur, il évoqua la figure naïve de Mademoiselle Angélique Bontemps, la compagne des jeux de son enfance. Tant qu'il n'eut pas l'âge de raison, son père et sa mère ne s'opposèrent point à son intimité avec la jolie fille de leur voisin de campagne. Mais quand, pendant les courtes apparitions que les vacances lui laissaient faire à Bayeux, ses parents, entichés de noblesse, s'aperçurent de son amitié pour la jeune fille, ils lui défendirent de penser à elle. Depuis 10 ans, Granville n'avait donc pu voir que par moments celle qu'il nommait sa petite femme. Dans ces moments, dérobés à l'active surveillance de leur famille, à peine échangèrent-ils de vagues paroles en passant l'un devant l'autre dans l'église ou dans la rue. Leurs plus beaux jours furent ceux où, réunis par l'une de ces fêtes champêtres nommées en Normandie des assemblées, ils s'examinèrent furtivement et en perspective. Pendant ses dernières vacances, Granville vit 2 fois Angélique, et le regard baissé et l'attitude triste de sa petite femme lui firent juger qu'elle était courbée sous quelque despotisme inconnu. Arrivé dès 7 heures du matin au bureau des messageries de la rue Notre-Dame-des-Victoires, le jeune avocat trouva heureusement une place dans la voiture qui partait à 7 heures pour la ville de Caen. L'avocat stagiaire ne revit pas sans une émotion profonde les clochers de la cathédrale de Bayeux. Aucune espérance de sa vie n'ayant encore été trompée, son cœur s'ouvrait aux beaux sentiments qui agitent de jeunes âmes. Après le trop long banquet d'allégresse pour lequel il était attendu par son père et par quelques amis, l'impatient jeune homme fut conduit vers une certaine maison située rue Teinture et bien connue de lui. Le cœur lui battit avec force quand son père, que l'on continuait d'appeler à Bayeux le comte de Granville, frappa rudement à une porte cochère dont la peinture verte tombait par écailles. Il était environ 4 heures du soir. Une jeune servante, coiffée d'un bonnet de coton, salua les deux messieurs par une courte révérence et répondit que ces dames allaient bientôt revenir de vêpres. Le comte et son fils entrèrent dans une salle basse, servant de salon, et semblable au parloir d'un couvent. Des lambris en noyer poli assombrissaient cette pièce, autour de laquelle quelques chaises en tapisserie et d'antiques fauteuils étaient symétriquement rangées. La cheminée en pierre n'avait pour tout ornement qu'une glace verdâtre, de chaque côté de laquelle sortaient les branches contournées de ces anciens candélabres fabriqués à l'époque de la paix d'Utrecht. Sur la boiserie, en face de cette cheminée, le jeune Granville aperçut un énorme crucifix d'ébène et d'ivoire entouré de buis bénis. Quoique éclairé par 3 croisées qui tiraient leur jour d'un jardin de province dont les carrés symétriques étaient dessinés par de longues raies de buis, la pièce en recevait si peu de jour qu'à peine voyait-on sur la muraille, parallèle à ces croisées, 3 tableaux d'église dus à quelques savants pinceaux et achetés sans doute pendant la Révolution par le vieux Bontemps qui, en sa qualité de chef de district, n'oublia jamais ses intérêts. Depuis le plancher soyeusement ciré jusqu'au rideau de toile à carreaux verts, tout brillait d'une propreté monastique. Involontairement, le cœur du jeune homme se serra dans cette silencieuse retraite où vivait Angélique. La continuelle habitation des brillants salons de Paris et le tourbillon des fêtes avaient facilement effacé les existences sombres et paisibles de la province dans le souvenir de Granville, et aussi le contraste fut-il pour lui si subit qu'il éprouva une sorte de frémissement intérieur. Sortir d'une assemblée chez Cambacérès où la vie se montrait si ample, où les esprits avaient de l'étendue, où la gloire impériale se reflétait vivement, et tomber tout à coup dans un cercle d'idées mesquines, n'était-ce pas être transporté de l'Italie au Groenland? Bon, vivre ici, c'est pas vivre, dit-il en examinant ce salon de méthodiste. Le vieux comte, qui s'aperçut de l'étonnement de son fils, alla le prendre par la main, l'entraîna devant une croisée d'où venait encore un peu de jour, et pendant que la servante allumait les vieilles bougies et les flambeaux, il essaya de dissiper les nuages que cet aspect amassait sur son front. « Écoute, mon enfant, lui dit-il, la veuve du père Bontemps est furieusement dévote. Quand le diable devient vieux, tu sais... Je vois que l'air du bureau te fait faire la grimace. Eh bien, voici la vérité. La vieille femme est assiégée par les prêtres. Ils lui ont persuadé qu'il était toujours temps de gagner le ciel, et pour être plus sûre d'avoir Saint-Pierre et ses clés, elle les achète. Elle va à la messe tous les jours, entend tous les offices, communie tous les dimanches que Dieu fait, et s'amuse à restaurer les chapelles. Elle a donné à la cathédrale tant d'ornements, d'aubes, de chapes, elle a chamarré le nez de tant de plumes qu'à la procession de la dernière fête Dieu, il y avait une foule comme à une pendaison pour voir les prêtres magnifiquement habillés et leurs ustensiles dorés à neuf. Aussi, cette maison est-elle une vraie terre sainte. C'est moi qui ai empêché la vieille folle de donner ses 3 tableaux à l'église, un dominicain, un Corrège et un André del Sarto, qui valent beaucoup d'argent. « Mais Angélique, demanda vivement le jeune homme. Ben, « Si tu ne l'épouses pas, Angélique est perdue, dit le comte. Nos bons apôtres lui ont conseillé de vivre vierge et martyr. J'ai eu toutes les peines du monde à réveiller son petit cœur en lui parlant de toi, quand je l'ai vue fille unique. Mais tu comprends aisément qu'une fois mariée, tu l'emmèneras à Paris. Là, les fêtes, le mariage, la comédie et l'entraînement de la vie parisienne... Ils feront facilement oublier les confessionnaux, les jeûnes, les cilices et les messes, dont se nourrissent exclusivement ces créatures. Mais les 50 000 livres de rente provenues des biens ecclésiastiques ne retourneront-elles pas? Non, nous y voilà, s'écria le comte d'un air fin. En considération du mariage, car la vanité de Madame Bontemps n'a pas été peu chatouillée par l'idée d'enterrer les Bontemps sur l'arbre généalogique des Granville. La Suze, dite mère, donne sa fortune en toute propriété à la petite, en ne s'en réservant que l'usufruit. Aussi le sacerdoce s'oppose-t-il à ton mariage. Mais je fais publier les bans, tout est prêt, et en 8 jours tu seras hors des griffes de la mère ou de ses abbés. Tu posséderas la plus jolie fille de Bayeux, une petite commère qui ne te donnera pas de chagrin, parce que ça aura du principe. Elle a été mortifiée, comme ils disent dans leur jargon, par les jeûnes, par les prières, et, ajouta-t-il à voix basse, par sa mère. Un coup frappé discrètement à la porte imposa silence au comte, qui crut voir entrer les deux dames. Un petit domestique à l'air affairé se montra, mais intimidé par l'aspect des deux personnages, il fit un signe à la bonne qui vint près de lui. Vêtue d'un gilet de drap bleu à petit basque qui flottait sur ses hanches et d'un pantalon rayé bleu et blanc, ce garçon avait les cheveux coupés en rond. Sa figure ressemblait à celle d'un enfant de cœur, tant elle peignait cette componction forcée que contractent tous les habitants d'une maison dévote. « Mademoiselle Gatienne, savez-vous où sont les livres pour l'office de la Vierge ? Les dames de la congrégation du Sacré-Cœur font ce soir une procession dans l'église. » Gatienne alla chercher les livres. « Y en a-t-il encore pour longtemps, mon petit milicien ?» demanda le comte. « Ou pour une demi-heure ou plus ?» Allons voir ça. Il y a de jolies femmes, dit le père à son fils. D'ailleurs, une visite à la cathédrale ne peut pas nous nuire. Le jeune avocat suivit son père d'un air irrésolu. Mais qu'as-tu donc ? Lui demanda le comte. J'ai, mon père, j'ai que j'ai raison. Mais tu n'as encore rien dit. Oui, mais. J'ai pensé que vous avez conservé 10 000 livres de rente de votre ancienne fortune. Vous me les laisserez le plus tard possible, je le désire. Mais si vous me donnez 100 000 francs pour faire un sot mariage, vous me permettrez de ne vous en demander que 50 000 pour éviter un malheur et jouir, tout en restant garçon, d'une fortune égale à celle que pourrait m'apporter votre demoiselle Bontemps. Es-tu fou ? Non, mon père. Voici le fait. Le grand juge m'a promis avant-hier une place au parquet de Paris. 50 000 francs joints à ce que je possède et aux appointements de ma place me feront un revenu de 12 000 francs. J'aurai, certes alors, des chances de fortune 1000 fois préférables à celle d'une alliance aussi pauvre de bonheur qu'elle est riche en biens. On voit bien, répondit le père en souriant, que tu n'as pas vécu dans l'Ancien Régime. Est-ce que nous sommes jamais embarrassés d'une femme, nous autres ? Mais mon père, aujourd'hui, le mariage est devenu... Oh, ça, dit le comte en interrompant son fils, tout ce que mes vieux camarades d'émigration me chantent est donc bien vrai ? La Révolution nous a donc légué des mœurs sans gaieté ? Elle a donc empesté les jeunes gens de principes équivoques ? Tout comme mon beau-frère, le Jacobin, tu vas me parler de relations, de morale publique, de désintéressement. Oh, mon Dieu, mais sans les sœurs de l'empereur, que devrions-nous ? Ce vieillard encore vert, que les paysans de cette terre appelaient toujours le seigneur de Granville, acheva ses paroles en entrant sous les voûtes de la cathédrale. Nonobstant la sainteté des lieux, il fredonna, tout en prenant de l'eau bénite, un air de l'opéra de Rose et Cola, et guida son fils le long des galeries latérales de la nef, en s'arrêtant à chaque pilier pour examiner dans l'église les rangées de têtes qui s'y trouvaient alignées comme le sont des soldats à la parade. L'office particulier du Sacré-Cœur allait commencer. Les dames affiliées à cette congrégation étant placées près du cœur, le comte et son fils se dirigèrent vers cette portion de la nef et s'adossèrent à l'un des piliers les plus obscurs, d'où ils purent apercevoir la masse entière de ces têtes qui ressemblaient à une prairie émaillée de fleurs. Tout à coup, à deux pas du jeune Granville, une voix plus douce qu'il ne semblait possible à créature humaine de la posséder, détonna comme le premier rossignol qui chante après l'hiver. Quoique accompagnée de mille voix de femmes et par les sons de l'orgue, cette voix remua ses nerfs comme s'ils eussent été attaqués par les notes trop riches et trop vives de l'harmonica. Le Parisien se retourna, vit une jeune personne dont la figure était, par suite de l'inclination de sa tête, entièrement ensevelie sous un large chapeau d'étoffe blanche, et pensa que d'elle seule venait cette claire mélodie. Il crut reconnaître Angélique, malgré la pelisse de mérinos bleu, brun, qui l'enveloppait et poussa le bras de son père. Oui, c'est elle, dit le comte, après avoir regardé dans la direction que lui indiquait son fils. Le vieux seigneur montra par un geste le visage pâle d'une vieille femme, dont les yeux fortement bordés d'un cercle noir avaient déjà vu les étrangers sans que son regard faux eût paru quitter le livre de prière qu'elle tenait. Angélique leva la tête vers l'autel, comme pour aspirer les parfums pénétrants de l'encens dont les nuages arrivaient jusqu'aux deux femmes. À la lueur mystérieuse répandue dans ce sombre vaisseau par les cierges, la lampe de la nef et quelques bougies allumées au pilier, le jeune homme aperçut alors une figure qui ébranla ses résolutions. Un chapeau de moire blanche encadrait exactement un visage d'une admirable régularité par l'ovale que décrivait le ruban de satin noué sous un tout petit menton à facettes. Sur un front étroit, mais très mignon, des cheveux couleur d'or pâle se séparaient en deux bandeaux et retombaient autour des joues comme l'ombre d'un feuillage sur une touffe de fleurs. Les deux arcs des sourcils étaient dessinés avec cette correction que l'on admire dans les belles figures chinoises. Le nez, presque aquilin, possédait une fermeté rare dans ses contours, et les deux lèvres ressemblaient à deux lignes roses tracées avec amour par un pinceau délicat. Les yeux, d'un bleu pâle, exprimaient la candeur. Si Granville remarqua dans ce visage une sorte de rigidité silencieuse, il put l'attribuer au sentiment de dévotion qui animait alors Angélique. Les saintes paroles de la prière passaient entre deux rangées de perles, d'où le froid permettait de voir sortir comme un nuage de parfum. Involontairement, le jeune homme essaya de se pencher pour respirer cette haleine divine. Ce mouvement attira l'attention de la jeune fille, et son regard fixe, élevé vers l'autel, se tourna sur Granville, que l'obscurité ne lui laissa voir qu'indistinctement, mais en qui elle reconnut le compagnon de son enfance. Un souvenir plus puissant que la prière vint donner un éclat surnaturel à son visage, elle rougit. L'avocat tressaillit de joie en voyant les espérances de l'autre vie vaincues par les espérances de l'amour et la gloire du sanctuaire éclipsée par des souvenirs terrestres. Mais son triomphe dura peu. Angélique abaissa son voile, prit une contenance calme et se remit à chanter sans que le timbre de sa voix accusât la plus légère émotion. Granville se trouva sous la tyrannie d'un seul désir et toutes ses idées de prudence s'évanouirent. Quand l'office fut terminé, son impatience était déjà devenue si grande que sans laisser les deux dames retourner seules chez elles, Il vint aussitôt saluer sa petite femme. Une reconnaissance timide de part et d'autre se fit sous le porche de la cathédrale en présence des fidèles. Madame Bontemps trembla d'orgueil en prenant le bras du comte de Granville, qui, forcé de le lui offrir devant tant de monde, sut fort mauvais gré à son fils d'une impatience si peu décente. Pendant environ 15 jours qui s'écoulèrent entre la présentation officielle du jeune vicomte de Granville comme prétendu de Mademoiselle Bontemps et le jour solennel de son mariage, il vint assidûment trouver son ami dans le sombre parloir auquel il s'accoutuma. Ces longues visites eurent pour but d'épier le caractère d'Angélique, car sa prudence était heureusement réveillée le lendemain de son entrevue. Il surprit presque toujours sa future, assise devant une petite table en bois de Sainte-Lucie, et occupée à marquer elle-même le linge qui devait composer son trousseau. Angélique ne parla jamais la première de religion. Si le jeune avocat se plaisait à jouer avec le riche chapelet contenu dans un petit sac en velours vert, s'il contemplait en riant la relique qui accompagne toujours cet instrument de dévotion, Angélique lui prenait doucement le chapelet des mains en lui jetant un regard suppliant et, sans mot dire, le remettait dans le sac qu'elle serrait aussitôt. Si parfois Granville se hasardait malicieusement à déclamer contre certaines pratiques de la religion, la jolie Normande l'écoutait en lui opposant le sourire de la conviction. « Il ne faut rien croire ou croire tout ce que l'Église enseigne, » répondait-elle. « Voudriez-vous pour la mère de vos enfants d'une fille sans religion ? Non. Et quel homme oserait être juge entre les incrédules et Dieu ? Eh bien, comment puis-je blâmer ce que l'Église admet ? » Angélique semblait animée par une si onctueuse charité. Le jeune avocat lui voyait tourner sur lui des regards si pénétrés qu'il fut parfois tenté d'embrasser la religion de sa prétendue. La conviction profonde où elle était de marcher dans le vrai sentier réveilla dans le cœur du futur magistrat des doutes qu'elle essayait d'exploiter. Granville commit alors l'énorme faute de prendre les précis du désir pour ceux de l'amour. Angélique fut si heureuse de concilier la voix de son cœur et celle du devoir, en s'abandonnant à une inclination conçue dès son enfance, que l'avocat trompé ne put savoir laquelle de ces deux voix était la plus forte. Les jeunes gens ne sont-ils pas tous disposés à se fier aux promesses d'un joli visage, à conclure de la beauté de l'âme par celle des traits? Un sentiment indéfinissable les porte à croire que la perfection morale concorde toujours à la perfection physique. Si la religion n'eût pas permis à Angélique de se livrer à ses sentiments, il se serait bientôt séché dans son cœur comme une plante arrosée d'un acide mortel. Un amoureux aimé pouvait-il reconnaître un fanatisme si bien caché? Telle fut l'histoire des sentiments du jeune Granville pendant cette quinzaine, dévoré comme un livre dont le dévouement intéresse. Angélique, attentivement épiée, lui parut être la plus douce de toutes les femmes, et il se surprit même à rendre grâce à Madame Bontemps, qui, en lui inculquant si fortement des principes religieux, l'avait en quelque sorte façonné aux peines de la vie. Au jour choisi pour la signature du fatal contrat, Madame Bontemps fit solennellement jurer à son gendre de respecter les pratiques religieuses de sa fille, de lui donner une entière liberté de conscience, de la laisser communier, aller à l'église, à confesse, autant qu'elle le voudrait, et de ne jamais la contrarier dans le choix de ses directeurs. En ce moment solennel, Angélique contempla son futur d'un air si pur et si candide que Granville n'hésita pas à prêter le serment demandé. Un sourire effleura les lèvres de l'abbé Fontanon homme pâle qui dirigeait les consciences de la maison. Par un léger mouvement de tête, Mademoiselle Bontemps promit à son ami de ne jamais abuser de cette liberté de conscience. Quant au vieux comte, il siffla tout bas l'air de « Va-t'en voir s'ils viennent !» Après quelques jours accordés au retour de noces si fameuses en province, Granville et sa femme revinrent à Paris, où le jeune avocat fut appelé par sa nomination aux fonctions d'avocat général près la cour impériale de la Seine. Quand les deux époux y cherchèrent un appartement, Angélique employa l'influence que la lune de miel prête à toutes les femmes pour déterminer Granville à prendre un grand appartement situé au rez-de-chaussée d'un hôtel qui faisait le coin de la rue Vière et rue du Temple et de la rue Neuve-Saint-François. La principale raison de son choix fut que cette maison se trouvait à deux pas de la rue d'Orléans, où il y avait une église et voisine d'une petite chapelle, 6 rue Saint-Louis. « Il aide une bonne ménagère de faire des provisions, » lui répondit son mari en riant. Angélique lui fit observer avec justesse que le quartier du Marais avoisine le palais de justice et que les magistrats qu'il venait de visiter y demeuraient. Un jardin assez vaste donnait pour un jeune ménage du prix à l'appartement. Les enfants, si le ciel leur en envoyait, pourraient y prendre l'air, la cour était spacieuse, les écuries étaient belles. L'avocat général désirait habiter un hôtel de la chaussée d'Antin, où tout est jeune et vivant, où les modes apparaissent dans leurs nouveautés, où la population des boulevards est élégante, d'où il y a moins de chemin à faire pour gagner les spectacles et rencontrer des distractions. Mais il fut obligé de céder aux patelineries d'une jeune femme qui réclamait une première grâce, et pour lui complaire, il s'enterra dans le Marais. Les fonctions de Granville nécessitèrent un travail d'autant plus assidu qu'il fut nouveau pour lui. Il s'occupa donc avant tout de l'ameublement de son cabinet et de l'emménagement de sa bibliothèque. Il s'installa promptement dans une pièce bientôt encombrée de dossiers et laissa sa jeune femme diriger la décoration de la maison. Il jeta d'autant plus volontiers Angélique dans l'embarras des premières acquisitions de ménage, sourd de tant de plaisir et de souvenirs pour les jeunes femmes, qu'il fut honteux de la priver de sa présence plus souvent que ne le voulaient les lois de la lune de miel. Une fois au fait de son travail, l'avocat général permit à sa femme de le prendre par le bras, de le tirer hors de son cabinet et de l'emmener pour lui montrer l'effet des ameublements et des décorations qu'il n'avait encore vu qu'en détail ou par partie. S'il est vrai, d'après un adage, qu'on puisse juger une femme en voyant la porte de sa maison, les appartements doivent traduire son esprit avec encore plus de fidélité. Soit que Madame de Granville eût accordé sa confiance à des tapissiers sans goût, soit qu'il eût inscrit son propre caractère dans un monde de choses ordonnées par elle, le jeune magistrat fut surpris de la sécheresse et de la froide solennité qui régnaient dans ses appartements. Il n'y aperçut rien de gracieux, tout y était discord, rien ne recréait les yeux. L'esprit de rectitude et de petitesse empreint dans le parloir de Bayeux revivait dans son hôtel, sous de larges lambris circulairement creusés et ornés de ces arabesques dont les longs filets contournés sont de son mauvais goût. Dans le désir d'excuser sa femme, le jeune homme revint sur ses pas, examina de nouveau la longue antichambre haute d'étage par laquelle on entrait dans l'appartement. La couleur des boiseries demandées au peintre par sa femme était trop sombre, et le velours d'un vert très foncé qui couvrait les banquettes ajoutait au sérieux de cette pièce peu importante, il est vrai, mais qui donne toujours l'idée d'une maison, de même qu'on juge l'esprit d'un homme sur sa première phrase. Une antichambre est une espèce de préface qui doit tout annoncer mais ne rien promettre. Le jeune substitut se demanda si sa femme avait pu choisir la lampe à lanterne antique qui se trouvait au milieu de cette salle nue, pavée d'un marbre blanc et noir, décorée d'un papier où étaient simulées des assises de pierre sillonnées çà et là de mousse verte. Un riche mais vieux baromètre était accroché au milieu d'une des parois, comme pour en mieux faire sentir le vide. À cet aspect, le jeune homme regarda sa femme. Et il la vit si contente des galons rouges qui bordaient les rideaux de percale, si contente du baromètre de la statue décente, ornement d'un grand poêle gothique, qu'il n'eut pas le barbare courage de détruire de si fortes illusions. Au lieu de condamner sa femme, Granville se condamna lui-même. Il s'accusa d'avoir manqué à son premier devoir, qui lui commandait de guider à Paris les premiers pas d'une jeune fille élevée à Bayeux. Sur cet échantillon qui ne devinerait pas la décoration des autres pièces. Que pouvait-on attendre d'une jeune femme qui prenait l'alarme en voyant les jambes nues d'une cariatide, qui repoussait avec vivacité un candélabre, un flambeau, un meuble, dès qu'elle y apercevait la nudité d'un torse égyptien. À cette époque, l'école de David arrivait à l'apogée de sa gloire. Tout se ressentait en France de la correction de son dessin et de son amour pour les formes antiques, qui fit en quelque sorte de sa peinture une sculpture coloriée. Aucune de toutes les inventions du luxe impérial n'obtint droit de bourgeoisie chez Madame de Granville. L'immense salon carré de son hôtel conserva le blanc et l'or fané qu'il en est au temps de Louis XV, et où l'architecte avait prodigué les grilles en losange et ses insupportables festons dus à la stérilité et à la fécondité des crayons de cette époque. Si l'harmonie eût régné, du moins, si les meubles eussent fait affecter à l'acajou moderne les formes contournées mises à la mode par le goût corrompu de Boucher, la maison d'Angélique n'aurait offert que le plaisant contraste de jeunes gens vivant au XIXe siècle, comme s'ils eussent appartenu au XVIIIe. Mais une foule de choses y produisait des antithèses ridicules pour les yeux. Les consoles, les pendules, les flambeaux représentaient ces attributs guerriers que les triomphes de l'Empire rendirent si chers à Paris. Ces casques grecs, ces épées romaines croisées, les boucliers dus à l'enthousiasme militaire et qui décoraient les meubles les plus pacifiques, ne s'accordaient guère avec les délicates et prolixes arabesques délices de Madame de Pompadour. La dévotion portait à je ne sais quelle humilité fatigante qui n'exclut pas l'orgueil. Soit modestie, soit penchant, Madame de Granville semblait avoir horreur des couleurs douces et claires. Peut-être aussi pensa-t-elle que la pourpre et le brun convenaient à la dignité du magistrat. Mais comment une jeune fille accoutumée à une vie austère aurait-elle pu concevoir ces voluptueux divans qui inspirent de mauvaises pensées, ces boudoirs élégants et perfides où s'ébauchent les péchés? Le pauvre magistrat fut désolé. Au ton d'approbation par lequel il souscrivit aux éloges que sa femme se donnait elle-même, il s'aperçut que rien ne plaisait à son mari. Elle manifesta tant de chagrin de n'avoir pas réussi que l'amoureux Granville vit une preuve d'amour dans cette peine profonde, au lieu d'y voir une blessure faite à l'amour-propre. Une jeune fille subitement arrachée à la médiocrité des idées de province, inhabile aux coquetteries, à l'élégance de la vie parisienne, pouvait-elle donc mieux faire? Le magistrat préféra croire que les choix de sa femme avaient été dominés par les fournisseurs plutôt que de s'avouer la vérité. Moins amoureux, il eut senti que les marchands, prompts à deviner l'esprit de leur chaland, avaient béni le ciel de leur avoir envoyé une jeune dévote sans goût pour les aider à se débarrasser des choses passées de mode. Il consola donc sa jolie Normande. Le bonheur, ma chère Angélique, ne nous vient pas d'un meuble plus ou moins élégant. Il dépend de la douceur, de la complaisance et de l'amour d'une femme. Mais c'est mon devoir de vous aimer, et jamais devoir ne me plaira tant à accomplir, reprit doucement Angélique. La nature a mis dans le cœur de la femme un tel désir de plaire, un tel besoin d'amour, que même chez une jeune dévote, les idées d'avenir et de salut doivent succomber sous les premières joies de l'hyménée. Aussi, depuis le mois d'avril, époque à laquelle ils s'étaient mariés, jusqu'au commencement de l'hiver, les deux époux vécurent-ils dans une parfaite union. L'amour et le travail ont la vertu de rendre un homme assez indifférent aux choses extérieures. Obligé de passer au palais la moitié de la journée, appelé à débattre les graves intérêts de la vie ou de la fortune des hommes, Granville put, moins qu'un autre, apercevoir certaines choses dans l'intérieur de son ménage. Si le vendredi, sa table se trouva servie en maigre, si par hasard il demanda sans l'obtenir un plat de viande, sa femme, à qui l'évangile interdisait tout mensonge, sut néanmoins, par de petites ruses permises dans l'intérêt de la religion, rejeter son dessein prémédité sur son étourderie ou sur le dénuement des marchés. Elle se justifia souvent aux dépens du cuisinier et alla quelquefois jusqu'à le gronder. À cette époque, les jeunes magistrats n'observaient pas, comme aujourd'hui les jeunes, les quatre temps et les veilles de fête. Ainsi, Granville ne remarqua point d'abord la périodicité de ses repas maigres, que sa femme eut d'ailleurs le soin perfide de rendre très délicat au moyen de sarcelles, de poules d'eau, de pâtés aux poissons, dont les chairs amphibies ou l'assaisonnement trompaient le goût. Le magistrat vécut donc très orthodoxement, sans le savoir, et fit son salut incognito. Les jours ordinaires, il ignorait si sa femme allait ou non à la messe. Les dimanches, par une condescendance assez naturelle, il l'accompagnait à l'église comme pour lui tenir compte de ce qu'elle lui sacrifiait quelquefois les vêpres. Les spectacles étant insupportables en été à cause des chaleurs, Granville n'eut pas même l'occasion d'une pièce à succès pour proposer à sa femme de la mener à la comédie. Ainsi, la grave question du théâtre ne fut pas agitée. Enfin, dans les premiers moments d'un mariage auquel un homme a été déterminé par la beauté d'une jeune fille, il lui est difficile de se montrer exigeant dans ses plaisirs. La jeunesse est plus gourmande que friande, et d'ailleurs la possession seule est un charme. Comment reconnaîtrait-on la froideur, la dignité ou la réserve d'une femme quand on lui prête l'exaltation que l'on sent, quand elle se colore du feu dont on est animé? Il faut arriver à une certaine tranquillité conjugale pour voir qu'une défaute attend l'amour les bras croisés. Granville se crut donc assez heureux, jusqu'au moment où un événement funeste vint influer sur les destinées de son mariage. Au mois de novembre 1807, le chanoine de la cathédrale de Bayeux, qui jadis dirigeait les consciences de Madame Bontemps et de sa fille, vint à Paris, amené par l'ambition de parvenir à l'une des cures de la capitale, poste qu'il envisageait peut-être comme le marchepied d'un évêché. En ressaisissant son ancien empire sur son ouaille, il frémit de la trouver déjà si changée par l'air de Paris et voulut la ramener dans son froid bercail. Effrayé par les remontrances de l'ex-chanoine, homme de 38 ans environ, qui apportait au milieu du clergé de Paris, si tolérant et si éclairé, cette âpreté du catholicisme provincial, cette inflexible bigoterie dont les exigences multipliées sont autant de liens pour les âmes timorées, Madame de Granville fit pénitence et revint à son jansénisme. Il serait fatigant de peindre avec exactitude les incidents qui amenèrent insensiblement le malheur au sein de ce ménage. Il suffira peut-être de raconter les principaux faits sans les ranger scrupuleusement par époque et par ordre. Cependant, la première mésintelligence de ces jeunes époux fut assez frappante. Quand Granville conduisit sa femme dans le monde, elle ne fit aucune difficulté d'aller aux réunions graves, aux dîners, aux concerts, aux assemblées des magistrats, placées au-dessus de son mari par la hiérarchie judiciaire. Mais elle sut, pendant quelque temps, prétexter des migraines toutes les fois qu'il s'agissait d'un bal. Un jour, Granville, impatienté de ses dispositions et ses indispositions de commande, supprima la lettre qui annonçait un bal chez un conseiller d'État. Il trompa sa femme par une invitation verbale, et dans une soirée où sa santé n'avait rien d'équivoque, il la produisit au milieu d'une fête magnifique. « Ma chère, lui dit-il au retour en lui voyant un air triste qui l'offensa, votre condition de femme, le rang que vous occupez dans le monde et la fortune dont vous jouissez, vous impose des obligations qu'aucune loi divine ne saurait abroger. N'êtes-vous pas la gloire de votre mari? Vous devez donc venir au bal quand j'y vais et y paraître convenablement. » « Mais mon ami, qu'avait donc ma toilette de si malheureux? Mais non, une salut de votre air, ma chère. Quand un jeune homme vous parle et vous aborde, vous devenez si sérieuse qu'un plaisant pourrait croire à la fragilité de votre vertu. Vous semblez craindre qu'un sourire ne vous compromette. Vous aviez vraiment l'air de demander à Dieu le pardon des péchés qui pouvaient se commettre autour de vous. Le monde, mon cher ange, n'est pas un couvent. Mais puisque tu parles de toilette, je t'avouerai que c'est aussi un devoir pour toi de suivre les modes et les usages du monde. Voudriez-vous que je montrasse mes formes comme ces femmes effrontées qui se décollettent de manière à laisser plonger des regards impudiques sur leurs épaules nues, sur... Il y a de la différence, ma chère, dit le substitut en l'interrompant, entre découvrir tout le buste et donner de la grâce à son corsage. Vous avez un triple rang de ruches de tulle qui vous enveloppe le cou jusqu'au menton. Il semble que vous ayez sollicité votre couturière, doté toute forme gracieuse à vos épaules et au contour de votre sein, avec autant de soin qu'une coquette se met à obtenir de la sienne des robes qui dessinent les formes les plus secrètes. Votre buste est enseveli sous des plis si nombreux que tout le monde se moquait de votre réserve affectée. Vous souffririez si je vous répétais les discours saugrenus que l'on a tenus sur vous. Mais ceux à qui ces obscénités plaisent ne seront pas chargés du poids de nos fautes, répondit sèchement la jeune femme. « Mais vous n'avez pas dansé ? » demanda Granville. « Non, je ne danserai jamais, répliqua-t-elle. « Et si je vous disais que vous devez danser ? » reprit vivement le magistrat. « Oui, oui, vous devez suivre les modes, porter des fleurs dans vos cheveux, mettre des diamants. Songez donc, ma belle, que les gens riches, et nous le sommes, sont obligés d'entretenir le luxe dans un état. Ne vaut-il pas mieux faire prospérer les manufactures que de répandre son argent en aumône par les mains du clergé ? Mais vous parlez en homme d'État, dit Angélique. Et vous en homme d'Église, répondit-il vivement. La discussion devint très aigre. Madame Granville mit dans ses réponses, toujours douces et prononcées d'un son de voix aussi clair que celui d'une sonnette d'église, un entêtement qui trahissait une influence sacerdotale. Quand, en réclamant les droits que lui constituait la promesse de Granville, elle dit que son confesseur lui défendait spécialement d'aller au bal, le magistrat essaya de lui prouver que ce prêtre outrepassait les règlements de l'église. Et cette dispute odieuse, théologique, fut renouvelée avec beaucoup plus de violence et d'aigreur de part et d'autre quand Granville voulut mener sa femme au spectacle. Enfin, le magistrat, dans le seul but de battre en brèche la pernicieuse influence exercée sur sa femme par l'ex-chanoine, engagea la querelle de manière à ce que Madame de Granville, mise au défi, écrivit en cour de Rome sur la question de savoir si une femme pouvait, sans compromettre son salut, se décolleter, aller au bal et au spectacle pour complaire à son mari. La réponse du vénérable Pie VII ne tarda pas. Elle condamnait hautement la résistance de la femme et blâmait le confesseur. Cette lettre, véritable catéchisme conjugal, semblait avoir été dictée par la voix tendre de Fénelon, dont la grâce et la douceur y respiraient. Une femme est bien partout où la conduit son époux. Si elle commet des péchés par son ordre, ce ne sera pas à elle à en répondre un jour. Ces deux passages de l'homélie du pape le firent accuser d'irreligion par Madame de Granville et par son confesseur. Mais avant que le bref n'arrivât, le substitut s'aperçut de la stricte observance des lois ecclésiastiques que sa femme lui imposait les jours maigres, et il ordonna à ses gens de lui servir du gras pendant toute l'année. Quelque déplaisir que cet ordre causât à sa femme, Granville, qui du gras et du maigre se souciait fort peu, le maintint avec une fermeté virile. La plus faible créature vivante et pensante n'est-elle pas blessée dans ce qu'elle a de plus cher, quand elle accomplit, par l'instigation d'une autre volonté que la sienne, une chose qu'elle eut naturellement faite? De toutes les tyrannies, la plus odieuse est celle qui ôte perpétuellement à l'âme le mérite de ses actions et de ses pensées. On abdique sans avoir régné. La parole la plus douce à prononcer, le sentiment le plus doux à exprimer, expire quand nous les croyons commandés. Bientôt, le jeune magistrat en arriva à renoncer à recevoir ses amis, à donner une fête ou un dîner. Sa maison semblait s'être couverte d'un crêpe. Une maison dont la maîtresse est dévote prend un aspect tout particulier. Les domestiques, toujours placés sous la surveillance de la femme, ne sont choisis que parmi ces personnes soi-disant pieuses qui ont des figures à elle. De même que le garçon le plus jovial entré dans la gendarmerie aura le visage gendarme, de même les gens qui s'adonnent aux pratiques de la dévotion contractent un caractère de physionomie uniforme. L'habitude de baisser les yeux, de garder une attitude de conjonction, les revêt d'une livrée hypocrite que les fourbes savent prendre à merveille. Puis les dévotes forment une sorte de république, elles se connaissent toutes. Les domestiques qu'elles se recommandent les unes aux autres sont comme une race à part, conservée par elles, à l'instar de ces amateurs de chevaux, qui n'en aient pas un dans leurs écuries dont l'extrait de naissance ne soit en règle. Plus les prétendus impies viennent à examiner une maison dévote, puis ils reconnaissent alors que tout y est empreint de je ne sais quelle disgrâce. Ils y trouvent tout à la fois une apparence d'avarice ou de mystère, comme chez les usuriers, et cette humidité parfumée d'encens qui refroidit l'atmosphère des chapelles. Cette régularité mesquine, cette pauvreté d'idées que tout trahit, ne s'exprime que par un seul mot, et ce mot est bigoterie. Dans ces sinistres et implacables maisons, la bigoterie se peint dans les meubles, dans les gravures, dans les tableaux. Le parler y est bigot, le silence est bigot, et les figures sont bigotes. La transformation des choses et des hommes en bigoterie est un mystère inexplicable, mais le fait est là. Chacun peut avoir observé que les bigots ne marchent pas, ne s'asseyent pas, ne parlent pas comme marchent, s'asseyent et parlent les gens du monde. Chez eux, l'on est gêné, chez eux, l'on ne rit pas. Chez eux, la raideur, la symétrie règnent en tout, depuis le bonnet de la maîtresse de la maison jusqu'à sa pelote aux épingles. Les regards n'y sont pas francs, les gens y semblent des ombres, et la dame du logis paraît assise sur un trône de glace. Un matin, le pauvre Granville remarqua avec douleur et tristesse tous les symptômes de la bigoterie dans sa maison. Il se rencontre de par le monde certaines sociétés où les mêmes effets existent sans être produits par les mêmes causes. L'ennui trace autour de ces maisons malheureuses un cercle d'airain qui renferme l'horreur du désert et l'infini du vide. Un ménage n'est pas alors un tombeau, mais quelque chose de pire, un couvent. Au sein de cette sphère glaciale, le magistrat considéra sa femme sans passion. Il remarqua, non sans une vive peine, l'étroitesse d'idées que trahissait la manière dont les cheveux étaient implantés sur le front bas et légèrement creusés. Il aperçut, dans la régularité si parfaite des traits du visage, je ne sais quoi d'arrêté, de rigide, qui lui rendit bientôt haïssable la fine douceur par laquelle il fut séduit. Il devina qu'un jour ses lèvres minces pourraient lui dire, un malheur arrivant, « C'est pour ton bien, mon ami. » La figure de Madame de Granville prit une teinte blafarde, une expression sérieuse qui tuait la joie chez ceux qui l'approchaient. Ce changement fut-il opéré par les habitudes ascétiques d'une dévotion qui n'est pas plus la piété que l'avarice et l'économie? Était-il produit par la sécheresse naturelle aux ambigotes? Il serait difficile de prononcer. La beauté sans expression est peut-être une imposture. L'imperturbable sourire que la jeune femme fit contracter à son visage en regardant Granville paraissait être chez elle une formule jésuitique de bonheur par laquelle elle croyait satisfaire à toutes les exigences du mariage. Sa charité blessait, sa beauté sans passion semblait une monstruosité à ceux qui la connaissaient, et la plus douce de ses paroles impatientait. Elle n'obéissait pas à des sentiments, mais à des devoirs. Il est des défauts qui, chez une femme, peuvent céder aux leçons fortes données par l'expérience ou par un mari, mais rien ne peut combattre la tyrannie des fausses idées religieuses. Une éternité bienheureuse à conquérir, mise en balance avec un plaisir mondain, triomphe de tout et fait tout supporter. N'est-ce pas l'égoïsme divinisé, le moi par-delà le tombeau? Aussi le pape fut-il condamné au tribunal de l'infaillibilité de l'infaillible chanoine de la jeune dévote. Ne pas avoir tort est un des sentiments qui remplace tous les autres chez ces âmes despotiques. Depuis quelque temps, il s'était établi un secret combat entre les idées des deux époux, et le jeune magistrat se fatigua bientôt d'une lutte qui ne devait jamais cesser. Quel homme, quel caractère résiste à la vue d'un visage amoureusement hypocrite et à une remontrance catégorique opposée aux moindres volontés? Quel parti prendre contre une femme qui se sert de votre passion pour protéger son insensibilité, qui semble résolue à rester doucement inexorable, se prépare à jouer le rôle de victime avec délices et regarde un mari comme un instrument de Dieu, comme un mal dont les flagellations lui évitent celles du purgatoire? Quelles sont les peintures par lesquelles on pourrait donner l'idée de ces femmes qui font haïr la vertu en outrant les plus doux préceptes d'une religion que saint Jean résumait par « Aimez-vous les uns les autres » Existait-il dans un magasin de mode un seul chapeau condamné à rester en étalage ou à partir pour les îles? Granville était sûr de voir sa femme s'emparer. S'il se fabriquait une étoffe d'une couleur ou d'un dessin malheureux, elle s'en affublait. Ces pauvres dévotes sont désespérantes dans leur toilette. Le manque de goût est un des défauts qui sont inséparables de la fausse dévotion. Ainsi, dans cette intime existence qui veut le plus d'expansion, Granville fut sans compagne. Il alla seul dans le monde, dans les fêtes, au spectacle. Rien chez lui ne sympathisait avec lui. Un grand crucifix placé entre le lit de sa femme et le sien était là comme le symbole de sa destinée. Ne représente-t-il pas une divinité mise à mort, un homme-dieu tué dans toute la beauté de la vie et de la jeunesse? L'ivoire de cette croix avait moins de froideur qu'Angélique crucifiant son mari au nom de la vertu. Ce fut entre leurs deux lits que naquit le malheur. Cette jeune femme ne voyait là que des devoirs dans les plaisirs de l'hyménée. Là, par un mercredi des cendres, se leva l'observance des jeunes, pâle et livide figure, qui d'une voix brève ordonna un carême complet, sans que Granville jugeât convenable d'écrire cette fois au pape, afin d'avoir l'avis du consistoire sur la manière d'observer le carême, les quatre temps et les veilles des grandes fêtes. Le malheur du jeune magistrat fut immense. Il ne pouvait même pas se plaindre. Qu'avait-il à dire? Il possédait une femme jeune, jolie, attachée à ses devoirs, vertueuse, le modèle de toutes les vertus. Elle accouchait chaque année d'un enfant, les nourrissait tous elle-même et les élevait dans les meilleurs principes. La charitable Angélique fut promue ange. Les vieilles femmes qui composaient la société au sein de laquelle elle vivait, car à cette époque les jeunes femmes ne s'étaient pas encore avisées de se lancer, part-on, dans la haute dévotion, admirèrent tout le dévouement de madame de Granville et la regardèrent, sinon comme une vierge, au moins comme une martyre. Elles accusaient non pas les scrupules de la femme, mais la barbarie procréative du mari. Insensiblement, Granville, accablé de travail, sevré de plaisir et fatigué du monde où il errait solitaire, tomba vers 32 ans dans le plus affreux marasme. La vie lui fut odieuse. Ayant une trop haute idée des obligations que lui imposait sa place pour donner l'exemple d'une vie irrégulière, il essaya de s'étourdir par le travail et entreprit alors un grand ouvrage sur le droit. Mais il ne jouit pas longtemps de cette tranquillité monastique sur laquelle il comptait.